Sud Radio 10h midi, débat.
On est ensemble sur Sud Radio avec vous en direct pour les débats vendredi 12 novembre avec Jérôme Ripoul. Bonjour,
bonjour.
Directeur associé de l'agence Comfluence et vous êtes co-président d'Opinion Valais. Rudolf Granier, vous êtes conseiller de Paris, élu dans le 18e arrondissement.
C'est
bonjour.
Bien ça, Valérie
Expert,
bonjour.
Noémie Alioua, vous êtes essayiste, journaliste pour i24 News.
Bonjour.
Et Najwa El Haïté, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Armateur.
Bonjour Valérie,
on va parler de la crise des migrants, de ce qui est en train de se passer à la frontière polonaise avec une Europe qui semble bien impuissante. Un sondage qui, pour une fois, montre Éric Zemmour derrière Marine Le Pen et derrière le candidat LR. Donc, il semblerait qu'il ait, en tout cas, atteint un plafond de verre. Enfin, c'est encore une fois une photographie à l'instant T. Et puis, on l'a évoqué avec Gérard Collard cet échange entre Laure Adler et Franz-Olivier Gisberg sur le recul de la langue française et cet échange un petit peu surréaliste. On va en reparler dans un petit instant. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jérôme, on commence avec vous.
Oui, sujet lourd et difficile que j'ai choisi, c'est la grande sécu. Alors, va-t-il y avoir un hold-up sur les finances des mutuelles, des assureurs, des institutions de prévoyance ? En clair, je vais résumer. Quand vous allez chez le docteur, vous avez une partie qui est prise par la Sécurité sociale et une partie qui est assurée par votre complémentaire. Alors, complémentaire, c'est quoi ? Ça peut être une mutuelle, ça peut être une institution de prévoyance, c'est-à-dire un groupe à but non lucratif où il y a des représentants des salariés et du patronat, ou ça peut être un assureur. Et donc, ces complémentaires, elles assurent à peu près une vingtaine de milliards de frais de santé par an.
Ouais.
Et aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, un petit peu en catimini, il faut le dire, dit, après tout, on va faire la grande sécu. La grande sécu, c'est quoi ? On va récupérer, bien entendu, il y a la sécu, et on va récupérer tout ce que font les complémentaires santé.
Mmh.
Et donc là, c'est un enjeu de 19 milliards d'euros. En clair, c'est ni plus ni moins qu'une étatisation de la santé française. Ça veut dire que votre médecin demain, il sera payé uniquement par la sécu, et ça deviendra une forme de fonctionnalisation. Alors le danger qu'il y a derrière tout ça, c'est...
Mais comment ça va se passer avec des médecins qui sont non conventionnés, qui facturent 200 euros et d'autres 20 euros ?
Très bonne réflexion, Valérie. On risque de tordre le cou et la main aux médecins en leur imposant des tarifs. En clair, l'État dit, je vais reprendre la main sur une dérive des tarifs des médecins, des honoraires des médecins, pardon. Et puis, il dit, je gérerai mieux. Moi, je vais mieux gérer, je vais vous faire économiser 7 milliards d'euros. A-t-on vu déjà l'État reprendre un service et mieux le gérer que le privé ? Moi, je pose la question. Donc là, il y a vraiment une interrogation. Et derrière tout ça, c'est... Moi, je dénonce le mécanisme. Une fois de plus, les corps intermédiaires sont satellisés. On a un rapport qui sort aujourd'hui du Haut Conseil de l'assurance maladie, la problématique de l'assurance maladie. Et on a une discussion avec les corps intermédiaires le 18. Voilà. Ça, c'est une méthode qui est quand même dérangeante. Et puis derrière, il y a 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, c'est pas rien. Si l'État les récupère, est-ce que ça sera bien géré ? Moi, j'émets de grands doutes. Donc, hold up ou pas, attention les Français, surveillez ça parce que c'est un élément de la campagne.
Mais ça paraît difficilement. Que deviendraient les mutuelles pour le coup ?
Eh bien, perdre 70%. Alors, il y a deux hypothèses. Elles perdent 70% de leur chiffre d'affaires et donc elles mettent la clé sous la porte. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous avez un système à l'anglaise où c'est l'État qui gère tout. Ça se passe très très mal, on le sait. Et là, il y a des surcomplémentaires. C'est-à-dire que vous avez des complémentaires, des sursures qui vous coûtent très 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 cher. Et là...
Et comment se fait-il que les mutuelles, on ne les entende pas ?
Oui, enfin, c'est ça.
C'est silence radio de leur côté.
Alors, les mutuelles, elles sont, je pense, un peu estomaquées, un peu complètement à côté du dialogue parce qu'elles n'ont pas vu le coup venir. Donc il y a un peu un effet de sidération, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, sidération. Et puis là, ce qu'on risque d'entendre, c'est les médecins. Je sais que j'ai eu Jean-Paul Ortiz hier soir, qui est le représentant de la Confédération des syndicats médicaux français, qui dit « c'est pas possible, on devient des fonctionnaires ». Donc les mutuelles, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, elles sont un peu sidérées et peut-être vont-elles s'organiser. Mais effectivement, il faut mettre le débat, le sujet c'est dans
mais
le débat.
Mais c'est vrai qu'on en entend assez peu parler.
Oui, mais ce qui dénote une certaine façon de faire de la politique, c'est-à-dire que c'est descendu d'en haut, ça arrive en bas, tout le monde est complètement estomaqué, personne n'est vraiment préparé, et ça donne en réalité l'impression d'un projet mal ficelé. C'est aussi l'impression qu'on a pour le moment. Trop bien ficelé, ça paraît compliqué quand même de vouloir monter au créneau d'une façon aussi violente et soudaine et immédiate sur les mutuelles, sur les médecins et sur les corps intermédiaires, comme vous le disiez très justement. Mais ça correspond un petit peu à cette façon, je disais, de faire de la politique depuis 4-5 ans, avec cet autoritarisme, cette façon de faire descendre des décisions d'en haut vers en bas, sans qu'il y ait eu vraiment de dialogue, de concertation, et sans qu'on sache vraiment s'il y a un gain en termes d'efficacité de santé publique. Et c'est là où je mets une limite à ma réflexion un peu anti-macronienne. Mais de toute façon, personne ne sera surpris là-dessus. Oui. Mais si on a une efficacité derrière, si on a des gains, si on a un hôpital public qui va mieux, si on a des médecins qui sont plus performants, si on arrive à arrêter les arrêts de travail de complaisance, genre pourquoi pas. Moi, je ne suis pas fermé. Sauf que le dialogue...
Enfin,
la concertation, ça paraît complètement...
Sur les 19 milliards, il y en a 3 milliards qui concernent l'hôpital. Donc c'est la médecine de ville, le médicament, surtout qui est concerné.
Mais on sait que c'est une faiblesse de notre système français également. Bon, qu'il y ait une volonté de réforme, on le salue. Au bout de 4 ans et demi, on le salue un petit peu moins, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau. Si c'est un des enseignements de la crise Covid, et donc de tout ce qui doit découler en termes d'enseignement du post-Covid, pourquoi pas. Mais en tout cas, avouons que la démarche qui est celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, n'est pas forcément celle du dialogue et de la concertation.
Oui, absolument. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Les débats avec vous, avec Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence et co-président d'Opinion Valaine. Achouel Haïté, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès. Votre dernier livre, Laïcité et République, est paru aux éditions L'Harmattan. Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News. Et Rudolf Granier, conseiller de Paris et élu dans le 18e arrondissement. On pourrait dire quelques mots d'Anne Hidalgo. Pas un jour sans parler d'Anne Hidalgo, tout de même.
Ça manquait.
On en parlera quand on parlera des sondages, parce que visiblement, un petit peu de mal. Comme vous êtes dur. Noémie, vous, c'était un coup de gueule ou un coup de cœur amusé? C'est quoi?
Exactement,
ça, un coup de gueule?
Amusé. C'est comme ça que je qualifierais. Bon, voilà, on a la veille du week-end. Ouais, on peut peut-être parler de quelque chose un petit peu léger. Vous avez sans doute vu ou pas cette vidéo donc, de cet homme qui est en uniforme, qui est sur le perron de l'Élysée. C'est une vidéo qui a été filmée hier et qui se met à faire le poirier, voilà, tout simplement. Se met à faire le poirier. Il faut la regarder parce qu'elle est vraiment très très drôle. Elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux depuis hier. Et donc le monsieur se met à faire le poirier. Il fait tomber sa casquette et puis on entend une voix. C'est sans doute quelqu'un de la sécurité qui vient lui dire « Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Où est-ce que vous vous croyez ?» Et donc il remet sa casquette et il se remet bien tout droit. Et c'est vrai que c'est un peu hallucinant. On ne s'attend pas du tout à ça.
Et alors, pourquoi il a fait ça?
Le monsieur, il avait envie de s'amuser un peu. On sent bien qu'il a un petit sourire aux lèvres. Peut-être qu'il avait un pari, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à voir ce genre de...
Puisqu'il y a un collègue qui le prend photo.
Oui.
Un collègue qui a failli dire « Attends, pas chiche, sans de doute, faire ça, c'est sombrement ridicule. »
Alors ça nous rappelle un petit peu tous les épisodes de ce genre, de ceux qui voulaient s'amuser un petit peu dans le jardin ou dans la cour de l'Élysée. On se rappelle de Big Flo et Oli qui avaient fait leur roulade. On se rappelle de la fête de la musique avec ces mecs en talons aiguilles et torse nu qui avaient dansé,
pareil, c'était à l'initiative du président de la République.
C'est-à-dire que ce lieu qui est censé représenter la sacralité du pouvoir qui est...
Ça explique effectivement qu'on puisse assister à ce genre d'événement.
Avec des petits amuseurs qui veulent un petit peu... qui veulent faire les ouaves. Oui, c'est assez surprenant. Voilà.
Ouais, bon, ça, c'est ce qui vous a marqué, vous, en tout cas hier. Ouais. Alors, Najoua, non, on va peut-être passer à Rudolf. Vous, c'est un coup
de cœur. Comme vous voulez, c'est un coup de cœur. Là non plus, il n'y a pas de suspicion sur mes idées. Pas amusé, non, c'est un coup de cœur sérieux pour Michel Barnier, qui est actuellement à La Réunion, à Mayotte, et qui est donc un des candidats pour les Républicains, pour notre congrès, et qui est le seul candidat qui prend la mesure de l'étendue de la France, de la grandeur de la France. C'est une question qu'on se pose souvent, qui aborde des vrais sujets avec nos compatriotes d'outre-mer, qui participent au rayonnement de la France, à savoir l'immigration, le droit du sol, la sécurité, l'environnement, la pêche, la formation également, et qui propose de passer d'une logique de guichet à une logique de projet avec nos compatriotes, qui rappelle le référendum sur la Nouvelle-Calédonie qui aura lieu le 12 décembre et qui souhaite rappeler son attachement à une Nouvelle-Calédonie française. Donc voilà, c'est cette démarche d'acceptation de la grandeur de la France qui passe par nos territoires
ultramarins. Mayotte, il y a d'autres choses à dire que
vous
la grandeur de la France.
De campagne,
hein. Non, je le soutiens. Toujours un flou sur les équipes de campagne, mais non, je soutiens
qu'est-ce qu'il a dit sur Mayotte? Parce que Mayotte, il y a quand même un vrai problème
d'immigration,
de violence,
de revenir sur
il a dit quelque chose.
Oui, bien sûr, de revenir sur le droit du sol et de modifier la constitution ainsi. Donc, c'est-à-dire de prendre les problèmes à bras le corps et avec méthode, par l'écoute, par le dialogue avec les responsables politiques.
Il est dans la même lignée qu'Éric Ciotti.
Entendu Éric Ciotti. Non, on parle de Mayotte, attention.
Je parle du droit du sol. Moi, je vous parle du droit du sol.
Michel Barnier parlait du droit du sol à Mayotte.
Et
la différence est sans doute de taille. Et c'est également aussi d'aborder cette problématique de l'immigration à une plus grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle européenne, comme il le propose, pour justement trouver des solutions, ce qui implique de connaître les mécanismes européens comme il les connaît, ce qui implique de dialoguer, d'écouter également nos compatriotes et notamment l'outre-mer, là où il est aujourd'hui.
Oui, bah écoutez, on verra la suite de sa campagne. Najwa.
Alors moi, je vais rebondir sur une tribune de Marianne, d'habitants très inquiets de l'implantation d'une association indigéniste. Association indigéniste qui est un syndicat de parents d'élèves, cofondé par Fatima Wasak. Alors je vous explique rapidement... Donc la maison de l'écologie populaire qui est installée à Bagnolet abrite donc ce mouvement très très controversé, le Front des Mères, donc dirigé par Fatima Wasak. Et qui est Fatima Wasak? Déjà, c'est la compagne de Youssef Brakni. Alors Youssef Brakni, peut-être que ça vous parle pas, mais c'est un des porte-paroles du comité La Vérité pour Adama Traoré. Et de plus, il est militant indigéniste et il s'en est jamais caché. D'ailleurs, on voit certaines vidéos où je vous aide bourré qui sont plutôt désagréables, où vous le voyez imposer en conseil municipal de Bagnolet son ordre du jour. Donc voilà, un militant indigéniste qui agit là où il peut agir avec toutes les méthodes possibles et inimaginables. Donc pour revenir sur Fatima Wasak, qui dirige le Front des Mères. Donc cette dame est une militante indigéniste qui a écrit un essai qui s'intitule « La puissance des mères » avec un sous-titre « Pour un nouveau sujet révolutionnaire ». Et donc quand on parle des mères, on dit « c'est intéressant, il s'agit d'un essai sur les femmes de quartier, les discriminations qu'elles subissent, et puis le fait qu'elles veulent sortir leurs enfants, parfois victimes des trafiquants de drogue ». Et bien c'est pas du tout ça. Fatima Wasak, elle a une détestation de la France. Et on le voit quand on lit son essai. Elle pointe d'ailleurs l'école de la République qu'elle considère comme discriminante, comme raciste. Et donc vous avez face à ça des parents qui sont exaspérés. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent un courrier de ce syndicat de parents d'élèves qui leur dit « Parents musulmans, parents noirs, parents arabes, en gros, soulevez-vous contre l'école de la République », ce qui est inacceptable en soi. Ouais. Enfin, je veux dire, on est...
Ce qui est très dangereux.
Et extrêmement inacceptable et dangereux, vous avez raison. Et donc, ces parents d'élèves dans cette tribune interpellent le maire en disant « Mais monsieur le maire, pourquoi vous laissez la maison de l'écologie populaire accepter dans ses locaux de 1000 mètres carrés, un tel syndicat qui est extrêmement dangereux pour la République ?» Eh bien, silence du maire qui dit « je vois pas où est le problème ». Ben nous, on voit où est le problème. C'est-à-dire que vous laissez donc une idéologie, j'allais dire, mortifère, divisée
en anti-républicaine
indigéniste. Et là, il faut aussi interpeller le préfet, parce que je rappelle...
C'est au préfet d'agir, vous avez entièrement raison.
Exactement, il faut aussi interpeller
le préfet. L'autorité de l'État doit se manifester.
Mais complètement, d'autant... Oui.
que, rappelez-vous, il y a une loi qui a été promulguée en août dernier, confortant les principes républicains et qui lutte contre le séparatisme. Mais autant vous dire que ce syndicat de parents d'élèves, eh bien, prône au contraire le séparatisme. Et donc là, c'était vraiment un coup de gueule que je voulais faire passer ce matin.
Vous avez raison, mais c'est vrai qu'on est un peu sidéré à chaque fois de la non-réaction qu'il peut y avoir des pouvoirs publics.
Et je vais vous dire, heureusement qu'il y a ces...
Il y a évidemment des intérêts politiques
merci
derrière.
Merci de souligner. Voilà.
Oui, c'est ce qui explique évidemment le silence de beaucoup de maires sur ces questions-là. C'est assez
incroyable.
Qu'il soit
d'ailleurs du PS, comme je crois le maire de Bagnolet, de droite, où on a quand même un clientélisme dans certaines...
On retrouve un petit peu plus ce clientélisme, je ne peux pas faire de ratio ou quoi que ce soit, mais chez nos élus de gauche en France.
Et, je pense que vous êtes optimiste, je crois que c'était également réparti.
Il faut aussi faire attention à considérer où ce genre de discours, comme vous venez de le décrire, rencontre un écho favorable, voire un silence coupable. C'est aussi ce genre de choses. Il peut y avoir un intérêt politique et électoraliste, on en est tout à fait conscient. Moi, je pense frontièrement que ça se rencontre beaucoup plus chez les élus de gauche. Il faut être très prudent avec ça. On porte atteinte à notre modèle républicain d'une façon, mais ouverte. Ça devient de plus en plus critique. Je pense qu'il y a sincèrement un nouveau pacte républicain à trouver entre les élus locaux qui sont en première ligne sur ce genre de problématiques, que ce soit sur des permis de construire, sur des financements associatifs. On lutte à la mairie de Paris avec Rachida Dati sur les financements associatifs, mais qui vont tendre à diviser la République. Mais ça va partout. Ça va sur des financements d'associations qui ne veulent réparer des vélos qu'entre femmes. Interdire aux hommes des ateliers de réparation de vélos. Ça va sur des associations qui refusent de signer la charte de la laïcité de la mairie de Paris. Donc, Anne Hidalgo ne fait pas non plus une grande publicité de cette charte de la laïcité.
Oui, vous avez le moyen de vérifier ça, vous
Bien sûr,
dans
on sait. On
vous
sait.
Avez quand même... Dont les dossiers sont assez...
Alors, c'est un travail titanesque. Parce qu'on prend des salves de demandes de subventions, de votes de subventions, mais vous n'imaginez même pas. J'ai fait une intervention au Conseil de Paris il y a plus d'un mois où on avait deux délibérations. C'est 3800 pages de délibérations qu'il faut analyser pour plus d'1,8 million d'euros de mémoire de subventions déversées. Mais vous savez, c'est un saupoudrage. C'est totalement insipide. C'est 3000 euros par-ci, 4000 euros par-là. On ne va surtout pas aller dans le fond des choses. Et on retrouve du financement d'ateliers d'écriture pour apprendre le français à des migrants. Très bien, la langue française est une condition importante de l'intégration, mais ce qu'on fait écrire à ces personnes-là, c'est chaque Français, chaque étranger a le droit à la couverture sociale, a le droit à un logement, a le droit à un travail, chaque personne a le droit de vivre là où elle veut. C'est ce qu'on fait écrire, et c'est la pauvreté des idées de gauche dans les urnes qu'ils sont en train de financer par des associations, et moi je trouve ça profondément...
C'est ce qui s'est passé aussi au Conseil de l'Europe, hein, à un autre niveau.
Exactement la même chose.
J'ai interviewé Florence Burgeot-Blaquet qui racontait que des associations qui ont complètement noyauté ces institutions.
Notamment, vous voyez, on a dissous le CCIF en France et on le retrouve à Bruxelles. Et ce CCIF, qui s'appelle maintenant CCIE à Bruxelles, fait du lobbying. Et on le voit avec cette campagne sur le voile récente. Hein.
Qui a théorisé l'entrisme en politique, à part les trotskistes, à part les amis de Lionel Jospin de l'époque, quand ils étaient jeunes? C'est la gauche qui utilise aussi ce même genre de méthode.
Noémie ?
Non, c'est très intéressant ce que vous disiez sur la ville de Paris. Moi, j'avais fait une enquête sur la ville de Sarcelles, qui est un petit peu l'emblème, justement, de ce communautarisme, de ce séparatisme. Et effectivement, on voit à quel point les associations savent très bien jouer sur cette frontière ténue entre le cultuel et le culturel. Et vous vous retrouvez par la force des choses à ce que des lieux de culte soient financés par les autorités, soient financés par la municipalité, parce qu'à l'intérieur, on va mettre une association, effectivement,
voire même un
plutôt
musée.
Culturel, voire un musée. Et d'une façon ou d'une autre, on va réussir à faire en sorte à se faire payer le lieu, ou en tout cas le parvis. Et donc, on voit qu'il y a toujours, sur le coup, c'est vraiment une atteinte frontale à la République.
Tout
et vous avez assez raison. Malheureusement, la gauche est plus encline à ça. Et on parle d'ailleurs souvent de l'islamo gauchine, cette contraction-là qui est assez terrible et qui voit que la gauche a démissionné, et c'est ce qui fait, on en reparlera sans doute, mais que la gauche aujourd'hui est désarticulée dans les urnes, dans les partis politiques.
Mais c'est pour ça qu'il faut soutenir, ces lanceurs d'alerte qui sont vraiment menacés. Menacés là-bas, je sais que Youssef Brakni, donc le compagnon de Fatima Ouassak, qui est à la tête de ce syndicat de parents d'élèves, est en train de vérifier chaque nom qui est signataire, en fait, de cette tribune dans Marianne, pour les menacer, ce qui est scandaleux, ce qui est scandaleux. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce matin ce coup de gueule.
Et donc, oui, vous avez raison. Mais ces journalistes vont réagir, porter plainte, j'imagine.
Enfin, je l'espère.
C'est le cas.
J'espère.
C'est le cas. On se retrouve dans un tout petit instant. On va commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous pouvez bien évidemment intervenir, réagir. On est avec Jérôme Ripoul, Rudolf Granier, Noémie Alioua et Najwa El-Haït. Peut-être on va évoquer donc le dernier sondage en date qui montre une certaine stagnation d'Éric Zemmour. On va y revenir. Mais je voulais quand même qu'on évoque ce qui s'est passé dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Échange entre Laure Adler et Franz-Olivier Gisberg, écoutez.
J'habite Marseille, oui, capitale française du cosmopolitisme, ville-monde où je suis heureux, où je me sens chez moi. Mais souvent, quand je me rends à pied à la gare Saint-Charles en passant par la Canebière, j'ai le cœur serré parce que pendant le trajet, je n'ai entendu personne ou presque parler français.
Que va-t-il arriver à notre langue?
Voilà, c'est tout. J'ai tout cité.
Tu parles du français.
C'est bizarre de dire ça.
Mais je ne dis pas que je n'ai pas rencontré des Français. Je dis qu'ils ne parlent pas français.
Pourquoi vous écrivez ça?
Mais pourquoi c'est bizarre? J'aimerais qu'ils parlent un peu plus français.
Moi, j'ai le droit d'écrire.
J'ai le droit de poser des questions. Je suis heureux à Marseille. Donc, je veux dire, voilà, je suis différent. Simplement, je suis heureux à Marseille.
Vous êtes blanc. Quant à.
Bah oui,
mais. Et fier de l'être.
Mais je ne suis pas gêné. Je ne suis pas gêné.
Il y a pas assez de blancs autour de vous.
Mais qu'est-ce que c'est quoi ça?
Mais je vois pas de gros dans tout ça.
Des échanges pour le moins étonnants, c'est-à-dire de dire, de regretter qu'on n'entende pas parler français, il est tout de suite accusé de racisme. Et surtout, elle lui dit, vous êtes blanc. Est-ce qu'elle aurait dit, vous êtes noir, vous êtes asiatique? Enfin, jamais elle aurait dit une chose comme ça.
Mais c'est Fogg qui est sommé de s'expliquer. Absolument. Par Laure Adler. C'est quand même assez ahurissant. Et en réalité, ce que Laure Adler ne réalise pas, c'est qu'elle alimente ce contre quoi elle est censée se battre. Et ça, je trouve la limite intellectuelle de cette gauche-là.
Bien pensante, sur le coup.
Avérée en deux secondes. On se rend compte que Laure Adler est une voix qui porte plus loin que le boulevard Saint-Germain, c'est déjà une première. Mais c'est surtout le cynisme avec lequel elle s'adresse à
Franz-Olivier Gisberg, avec beaucoup de condescendance.
Et ce sourire narquois, en disant vous êtes blanc, mais quelle outrance. En réalité, c'est Laure Adler qui est outrancière pour moi.
J'irais même plus loin, pour moi c'est du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'elle considère que les gens qui arrivent en France, qui sont parfois immigrés, comme il y en a beaucoup à Marseille, ou d'ailleurs dans certains quartiers de Paris, ne sont pas capables de maîtriser la langue française comme elle, qui la maîtrise assez bien d'ailleurs, qui a écrit beaucoup de livres, qui est attachée à la langue. Et la langue, on sait que c'est le ciment d'une nation, il l'explique très bien, on le sait. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez une femme comme Laure Adler qui considère que certains ne sont pas capables de maîtriser suffisamment bien la langue française.
Il y avait une tribune dans le Figaro Vox d'Amin El-Khatmi qui prenait fait et cause, qui expliquait que en France, il n'y a que 200 heures d'apprentissage du français pour les étrangers, contre 600 en Allemagne. Et lui, il dit, Madame Adler ignore tout de ce qui se passe réellement en France, et effectivement de cette difficulté. Parfois, ce n'est pas être raciste que de dire que, la langue française est en recul.
Mais je suis tout à fait d'accord. Là où peut-être, je ne défends surtout pas Laure Adler, parce que sa réaction, sa première réplique me paraît plutôt interrogative, alors sa deuxième est hallucinante. Mais là où je pense que Fogg aurait dû aller, enfin François-Olivier Gisbert aurait dû aller un peu plus loin, c'est, en clair, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en soi, on n'apprend plus le français. Donc derrière ça, il y a la question de l'école républicaine. Et là, je ne comprends pas que Laure Adler, que le dialogue ne se soit pas porté justement sur l'apprentissage du français. Et je crois que derrière tout ça, il y a effectivement une forme de mépris, vous le disiez. C'est du mépris.
C'est du néocolonialisme, plus large que ça.
Vous attendez quoi? Bon, ça veut dire que nous, on n'est plus capable aujourd'hui, la République n'est plus capable de donner un cadre éducatif qui remplit son office, et que finalement, on s'accommode d'un communautarisme. Et elle refuse le débat en le fermant avec cette espèce de point de Godwin.
Vous êtes blanc.
Fermez le banc maintenant.
C'est du racisme, par ailleurs. C'est-à-dire qu'essentialiser quelqu'un à sa couleur de peau, on est dans du racisme anti-blanc.
Alors, il prétendrait lutter contre le racisme. avec ce genre de propos, mais elle aggrave. Elle aggrave une situation qui est déjà très grave en France, moi je trouve. Et si vous voulez, à partir d'un moment, il va falloir qu'on se pose la question de les personnes que nous sommes en capacité d'accueillir. Moi, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, les cours d'alphabétisation, les cours de français sont des conditions absolument inamovibles pour pouvoir s'intégrer dans la société française. Mais c'est considéré à un moment aussi que le territoire sur lequel on est n'est pas un territoire comme les autres. C'est-à-dire qu'on peut parler n'importe quelle langue. Entre soi, je ne vais pas remonter, mes grands-parents ne parlaient pas tout entre eux, je n'ai pas de difficulté là-dessus, mais ils savaient aussi parler français. Et je considère qu'à un moment, on a ce rattachement au sol, à la République française, et ça passe par la langue qui est le vecteur le plus essentiel.
Oui, il a précisé, il dit « Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas assez de blancs, je parle du français, de la langue française. J'aime la francophonie. » On lui rappelle alors Adler qui a pris Goncourt, qui est sénégalais. Qui maîtrise encore mieux la langue.
Mais en tous les cas, moi je partage Najwa les propos bien sûr qui ont été dits, et je pense que c'est Laura Adler en effet qui est raciste, parce qu'elle considère que les personnes issues de l'immigration ne peuvent pas s'assimiler, et je parle bien d'assimilation, parce que souvent certains connotent ce mot de manière négative, mais l'assimilation, et j'aime à le rappeler, est dans le code civil, c'est-à-dire que la langue française vous permet de vous assimiler à un pays. La langue, c'est aussi la culture. C'est aussi elle contribue à la construction et à l'unité d'une nation, la langue française. Et donc, moi, je regrette amèrement ces propos, et j'ai envie de dire que c'est elle qui est tendancieuse, en fait. C'est pas François-Olivier Légisberg, c'est elle. Et j'aime aussi à raconter une anecdote que j'ai racontée récemment. J'ai un ami qui habite Marseille, un franco-marocain, et qui recevait sa maman qui vit au Maroc et qui s'est dit « Tiens, j'ai profité de mon séjour pour parfaire la langue française. » Eh bien, autant vous dire que sa maman, quand elle est arrivée à Marseille, qu'elle faisait son marché, qu'elle allait à telle ou telle rue ou tel magasin, elle a dit à son fils « Mais... en fait, j'ai l'impression d'être encore au Maroc, puisqu'on parle que l'arabe. » Et elle-même, elle disait, elle pointait du doigt ce problème-là. Donc oui, eh bien, et c'est là où Laura Adler, c'est cette gauche bien pensante qui m'exaspère,
cette phrase incroyable, vous êtes blanc et fier de l'être. Vous êtes blanc et fier de l'être. Est-ce qu'on aurait imaginé le tollé si elle avait dit « Vous êtes arabe, vous êtes noir et fier de l'être. »
Non, le racisme anti-blanc est certifié conforme, il est autorisé sur un plateau de télévision par des gens qui se disent bien-pensants et au nom du bien. C'est pas nouveau, mais le problème c'est qu'une telle personne comme Laura Adler, qui est quand même une figure d'autorité, journalistique, encore une fois, elle écrit beaucoup de livres, c'est aussi une essayiste, c'est quelqu'un qui compte. Le fait qu'une personne comme ça puisse avoir ce genre de propos dans une émission de télévision qui est par ailleurs est de grande qualité, eh bien elle donne une légitimité à beaucoup d'autres personnes qui, eux, ne sont pas devant, pas derrière les caméras et qui, justifier ça.
Elle jette un anathème alors qu'il y a un vrai sujet. Je veux dire, elle aurait pu l'interroger sur les raisons de ce qui lui avait poussé à dire ça. Et je trouve qu'elle est très, très limite.
Pour terminer, Valérie Expert, moi, ce que j'entends dans le message de Laura Adler, vous l'avez dit, c'est cette condescendance à dire probablement que certaines personnes issues de l'immigration ne peuvent pas apprendre le français. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'elle dit qu'ils ne doivent pas.
Qu'ils ne doivent pas, c'est ce qu'elle dit.
C'est normal. Donc, on va vraiment beaucoup plus loin. Et ce genre de propos sur un média français, quand on travaille à France Culture, ça pose évidemment plus que problème.
C'est une vraie question qu'il pose François-Olivier Gisberg. On peut s'interroger sur le fait que,
et quels sont les résultats de cet échec, puisque c'est un échec, sauf pour Laura Adler.
Allez, on marque une pause, on revient, on va parler du dernier sondage en date qui place Éric Zemmour en léger recul. Ça nous permettra de parler politique avec vous. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Éric Zemmour est en baisse dans deux sondages publiés hier. Il reste derrière Marine Le Pen, qui est elle-même largement devancée par Emmanuel Macron. Il reste à 25%. Beaucoup d'interrogations à chaque fois de nos auditeurs sur ce chiffre qui ne bouge pas. Alors je crois que Frédéric Dabi nous expliquait qu'Emmanuel Macron avait un socle assez important. Mais Éric Zemmour a perdu 2 points en un mois. Il atteindrait 14% des voix. reste derrière Marine Le Pen, qui elle est à 18% au premier tour et qui est stable, mais qui a perdu elle aussi quand même un certain nombre d'intentions de vote. Xavier Bertrand, si c'est lui le candidat LR, il obtiendrait 12% des voix, il perd un point. Valérie Pécresse serait à 9, devant Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si on a à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en tête, mais toujours à 10%, 8,5% avec Xavier Bertrand et 9% avec Michel Barnier. C'est, vous l'aviez dit, effectivement, Rodolphe Granier.
On pressent une certaine lassitude sur, par rapport au discours d'Emmanuel Macron. Bah, je pense que ça va continuer d'ici à décembre et que Éric Zemmour. Cette candidature ne passe pas janvier. Tout le monde attend une déclaration de candidature par positionnement vis-à-vis des autres. Je pense qu'Éric Zemmour attend surtout une déclaration de candidature par rapport à sa dynamique et qui aujourd'hui est baissière. Donc ça va peut-être le faire douter. Moi, je pense que finalement l'outrance ne paye pas. Ça paye de façon très rapide à l'ère des réseaux sociaux et de dynamiques politiques qui peuvent être de plus en plus rapides. Et on l'a vu finalement aussi avec Emmanuel Macron. On a encore un raccourcissement du temps politique qui exige d'être encore plus fort, plus violent. Éric Zemmour en a l'incarnation parfaite, jusqu'à des limites outrancières que je réprouve. On regarde de l'autre côté que l'ascension politique se passe plutôt à droite. Il y a eu une forme de stabilisation. Aujourd'hui, on attend, moi, avec beaucoup d'impatience, le 4 décembre, pour avoir un seul et unique candidat qui permettra d'établir ce qui est réellement la base de l'électorat de droite, pour ensuite faire une vraie campagne présidentielle et faire augmenter ce potentiel-là. Je pense qu'il y a un temps politique qu'il faut respecter, que finalement le premier tour de l'élection présidentielle est assez éloigné, qu'on a le temps de voir des gens émerger, on a le temps aussi de voir des gens régresser, c'est le cas d'Éric Zemmour aujourd'hui.
On a un peu le nez collé sur les infos au quotidien, mais c'est vrai qu'on était dans une ascension d'Éric Zemmour depuis quelques semaines.
On le sait, ce sont les dynamiques qui sont importantes.
Voilà, c'était une dynamique. Là, il y a un temps d'arrêt dans sa campagne, Najwa.
Oui, la dynamique, c'est vrai qu'il y croyait, Éric Zemmour. Mais c'est vrai que un certain nombre de d'éditorialistes avaient dit attention au feu de paille. Attention au feu de paille, parce que souvenez-vous de Chevènement. En 2001, on le donnait à plus de 14-15% à l'époque. Hein.
C'était très élevé. Ouais,
c'était plutôt élevé. Ben, il a fini à 5%. Donc, certes, les sondages sont des analyses à un instant T, et là, on voit que ça s'essouffle parce que vous avez des électeurs du RN et de la droite qui peut-être préfèrent l'original, comme on dit, à la copie.
De tout temps,
exactement. Et donc, on le voit dans le sondage, il perd plus du côté des électeurs, bien sûr, RN et LR. Après, j'ai envie de dire que là, il n'a pas encore annoncé sa candidature, donc peut-être que ça s'essouffle aussi parce qu'il y a une attente aussi. Je le défends pas,
j'analyse.
Il y a aussi une attente par rapport à une candidature qui tarde à être annoncée, donc on verra. Mais à côté de ça, il n'empêche que la droite, elle patine toujours au regard des sondages. Et on aurait pu penser que le débat
aurait pu en effet relancer
les choses.
Ça c'était être optimiste, parce que...
Je sais pas. Mais
aucun débat de primaire qui a...
Si, regardez les Verts.
Les Verts,
il y a une petite dynamique. On voit que Jadot...
La dynamique, elle s'est créée une fois que Jadot est sorti. La dynamique pendant le débat des écolos entre eux n'a jamais existé. D'ailleurs, c'était un niveau assez sordide comparé au niveau de débat que les Républicains peuvent avoir entre eux. Donc, moi, je partage complètement cette analyse du calendrier qui consiste à dire, il n'y a pas de conditionnel, à dire respectons les temps politiques. On sait aujourd'hui que notre temps politique à tous s'est énormément raccourci. Moi, le 4 décembre, ça ne me paraît pas tardif pour avoir un seul et unique candidat de la droite. Je trouve ça plutôt intelligent, à vrai dire. J'y étais pas franchement favorable, j'avoue, mais je trouve ça plutôt intelligent de la part de Christian Jacob, ce qui va nous permettre vraiment de rassembler notre famille politique, d'élargir. Regardez l'action de Michel Barnier, c'est de dire je parle d'abord à ma famille politique, ensuite j'irai parler avec l'UDI, par exemple. Tout ça doit s'agréger au fur et à mesure. Et je pense qu'on prend les conditions de la sérénité du rassemblement politique.
Noémie.
Oui, moi aussi, je parie sur cette progression de la chute de Zemmour, si je puis dire. Et je pense que ce n'est pas forcément lié à l'outrance dont vous parlez, mais c'est vraiment lié au fait, un, qu'il n'a toujours pas de programme clair, on ne sait pas exactement ce qu'il va proposer, et deux, c'est la question de l'incarnation politique. C'est-à-dire que Zemmour, il est très apprécié, il est très populaire, il fait des audiences énormes, parce que c'est un tribun, parce que c'est un polémiste, parce que c'est un journaliste, quelqu'un qui met les pieds dans le plat, mais il y a un monde, c'est ce que je pense vraiment de lui fondamentalement, il y a un monde entre ce personnage-là et le fait de vouloir être président de la République. Et donc, il y a eu une énorme dynamique qui est liée, encore une fois, à sa popularité, mais je ne suis pas sûre qu'au moment où on va passer, entre guillemets, aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'il faudra véritablement parler du programme, des mesures, l'équipe, de la façon dont on va se structurer, en partie pour un jour peut-être maîtriser et diriger le pays, je pense que c'est là où le bas va blesser.
Souvenez-vous à ce même micro quand on évoquait le positionnement d'Éric Zemmour et à savoir s'il prenait plus au Rassemblement National ou aux Républicains. Quelques semaines après, on se rend compte que c'est beaucoup plus au Rassemblement National qu'il est en train de tailler des croupières en termes d'électorat. Regardez bien les déplacements qui ont été effectués par Éric Zemmour. En réalité, quel danger Éric Zemmour a pris dans ses déplacements? Ce sont des territoires où le Rassemblement National est très fort. Donc ça ne veut rien dire si ce n'est que, quel mérite d'aller rassembler 800 ou 1200 personnes dans des territoires où l'extrême droite est déjà très très élevée. Ouais. Donc ça n'a vraiment ça n'a
il fallait pas se laisser berner par ça. La frange populaire du Rassemblement National.
Juste pour terminer, pour vous donner raison, son côté aussi monothématique finit par, le faire émerger au grand jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose derrière.
C'est vrai que la question économique est quand même pour l'instant assez absente de tous ces discours.
Moi, j'apporterai plusieurs nuances. La première, je n'enterrerai pas Éric Zemmour à ce stade parce qu'en fait, il faut se dire une chose, on a des sondages dans un volume qu'on n'a jamais eu précédemment. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si on vous prenait le pouls toutes les semaines et vous pouvez être à 70 un jour, à 90 l'autre, sur le pouls. Donc là, peut-être il est en baisse, effectivement, mais on sent tellement, quasiment hebdomadairement, que ça devient difficile de voir la tendance. Donc moi, je ne l'enterrerai pas complètement. Ce qui est clair, c'est qu'il a une problématique de second souffle dans sa campagne, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va avoir autour de lui ? Il ne pourra pas... Macron a quand même eu autour de lui des transfuges du PS, des transfuges de la droite, etc. Enfin, du PS surtout, d'ailleurs. Donc lui, qu'est-ce qu'il va ramener comme soutien solide ? Pour l'instant, c'est des soutiens d'intention. Il n'a pas beaucoup de gens qui disent l'accompagner et qui viennent du Rassemblement National. Alors ça, c'est un deuxième point. À mon avis... Il ne franchira le cap de la candidature que si, aux vacances de Noël, il a devancé significativement Marine Le Pen. Sinon, il risque effectivement de ne pas y aller. Donc, c'est vrai que le temps long de la campagne, il va se jouer, mais je ne l'enterrerai pas.
Je pense que quoi qu'il arrive, il ira. Hein. Parce que à chaque fois qu'on lui pose la question, il est complètement habité, il a l'impression qu'on l'attend, ce qui n'est pas totalement faux. Il y a une partie, une frange de la population et de l'électorat qui voit en lui un sauveur qui est dans une sorte de mystique vis-à-vis de lui. Il le sent, il est touché par ça, et je pense que quoi qu'il arrive, il ira.
On peut le penser.
Il ne s'agit pas pour lui de gagner. Enfin, il n'est pas...
C'est un peu l'idée utile, là.
Non, lui, par contre, il veut imposer ses thèmes, parce que l'objectif, après les présidentielles, c'est l'union de la droite. Et donc, il veut vraiment tacler LR et récupérer ce qu'il peut récupérer si LR est en mauvaise posture et ne passe pas le premier tour. Là, il aura un coup à jouer.
Ouais. Alors, on a Pierre en ligne avec nous, un auditeur qui voulait réagir. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, je m'occupe de Jean Lassalle.
Ah oui, Pierre de Toulouse. Ah, voilà.
J'aime beaucoup Jean Lassalle.
On aime tous Jean Lassalle.
Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces sondages, c'est que je vois qu'il y a des candidats qui baissent, mais il n'y a pas de candidats qui remontent parmi ces sondages. Parce que forcément, il y a des candidats comme Jean Lassalle qui ne sont pas représentés dans ces sondages. Vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, c'est au choix de celui qui décide de faire le sondage. Et bien sûr, on choisit certaines personnes et pas d'autres. Bon, pourquoi ça, j'en sais rien. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que pour être justement à la recherche de parrainage pour Jean Lassalle, je peux vous dire que ce matin, j'écoutais Montebourg qui disait qu'il avait 250 parrainages. J'ai appris que M. Zemmour n'était pas encore arrivé aux 100 parrainages. Donc je peux vous dire que Jean Lassalle, qui est actuellement pratiquement aux 500 signatures, 500 parrainages, évidemment qu'il y a un fossé énorme qui ne permet pas à M. Zemmour de déclarer sa candidature, puisque forcément, il est trop loin des 500 signatures. Ah oui. Donc, évidemment, que la situation aujourd'hui est complexe pour lui, parce que d'un côté, bien sûr, il est extrêmement médiatisé, contrairement à Jean Lassalle, et à l'inverse, il n'a pas les signatures, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on on contrebalance, et que les journalistes contrebalancent un petit peu l'effet Zemmour, en invitant, évidemment, Jean Lassalle, ce que j'essaye de faire, moi, de mon côté, en téléphonant aux différents
et
journalistes.
Et c'est compliqué?
C'est pas compliqué, la seule chose c'est que comme il y a cette mouvance Zemmour, ben évidemment, vous savez, on invite les gens qui sont médiatisés, qui sortent et qui apportent un petit peu de l'audimat.
Voilà, mais Pierre, vous êtes sûr de ce que vous dites, de ce que vous affirmez quand vous dites que Éric Zemmour n'a pas atteint les 100 signatures?
Ça, je peux vous le dire, oui, parce que j'ai eu quelques échos. Il est plus près des 60 que des 100, pour tout dire.
C'est vrai que du côté de chez Marine Le Pen, on a eu un écho à peu près similaire en disant que cette année, c'était extrêmement difficile d'obtenir.
Ça l'a toujours été.
Oui, mais ça l'est plus pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que depuis la loi... qui a été passée par François Hollande, il y a une transparence. Donc les maires, on connaît les noms des maires.
Et 500 premiers.
Les 500 premiers, c'est ça.
On connaît les noms des maires. Et ce que m'expliquait cette personne du Rassemblement National, c'est qu'il y a des représailles sur les maires qui votent. C'est pas tellement
des collectivités vis-à-vis locales,
de leur... Oui, c'est ça. C'est pas tellement face à leurs électeurs, parce que certaines régions, certains endroits, certains villages, il y a une majorité d'électeurs Front National, Rassemblement National. Mais après, il y a des représailles des collectivités locales qui leur font payer ce soutien.
Par rapport à des subventions.
Par rapport à des subventions, Et pour Marine Le Pen, ça devient extrêmement compliqué et il y aurait environ un maire sur deux qui refuserait, parmi ceux qui avaient déjà donné les signatures, de signer. Donc c'est vrai que de soutenir Pierre, Jean Lassalle, c'est moins périlleux peut-être que de soutenir Éric Zemmour ou Marine Le Pen.
Ah, disons qu'au départ, il y a de nombreux candidats, il y en a 50 à peu près, et comme dit Jean, à la fin, il n'y en aura peut-être que 10. Et c'est cela qu'il va falloir peut-être mettre en avant. Et d'autant plus, alors ce qui m'a expliqué aussi, ce qui a l'explication est claire, c'est qu'il y a 60% des maires qui n'ont pas été, qui ne se sont pas représentés. Donc la recherche est donc difficile, puisque vous repartez sur des nouveaux maires pour chercher des parrainages.
Voilà. D'accord. Ben merci de cette intervention qui était. Oui, mais vous êtes visiblement assez optimiste, vous, pour Jean Lassalle.
Pierre, à mon avis.
Regardez les articles de journaux, bien sûr dans les régions, puisqu'actuellement on travaille sur les régions, et il est extrêmement populaire, et notamment l'autre jour sur Toulouse, puisque nous y sommes allés, les jeunes sont très accrochés à Jean Lassalle. Ils ont vraiment un engouement pour Jean Lassalle qui n'est pas à démentir, quoi, hein. Vous pourrez le regarder dans les différents articles de journaux.
Eh ben merci de cette intervention, voilà. Pierre, c'était tout à fait intéressant. Si ce qu'ils disent confirme, c'est...
Oui, mais ça pose exactement la question qu'on était en train de poser juste avant, c'est-à-dire c'est la question de l'incarnation politique et la question du parti, la question des relais sur le terrain, dans les territoires, et c'est
ça,
ce qu'a...
Ça peut peser effectivement à fond pour
Zemmour. Oui, mais bon, moi je pense, les parrainages sont de plus en plus difficiles, mais excusez-moi, et pourtant je suis très 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 éloignée de l'idéologie de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mais vous imaginez une élection présidentielle sans Marine Le Pen et Éric Zemmour.
Ça a failli se passer avec Jean-Marie Le Pen.
C'est chaque fois. Mais vous imaginez, c'est-à-dire même démocratiquement, vous regardez les sondages, ce serait pas... je veux bien que M. Lassalle ait énormément de parrainage, mais un premier tour, Lassalle, sans Marine Le Pen, sans Zemmour, et Dieu sait, je vous dis que je suis très éloignée de ça, vous imaginez le scandale démocratique? Bon. Voilà ce que je voulais dire.
Mais c'est juste.
Bon, je vois bien Emmanuel Macron dire Français, si je suis élu, je vous assure, je ferai la réforme. Là, j'ai pas le temps, mais.
Mais c'est peut-être ce qui va se passer pour Éric Zemmour. C'est-à-dire que ce sera. Moi, je l'ai persuadé qu'il n'irait pas jusqu'au bout, mais d'une manière de se victimiser en disant...
Exactement.
Voilà.
Il deviendra le chef de l'opposition pendant les 5 années à venir, et quoi qu'il arrive, il a tout gagné.
Il y a 10 points qui se répartissent à nouveau, qui se volatilisent sur le corps électoral, c'est énorme.
Je trouve le niveau de débat qu'on a assez intéressant. Il y a une règle pour être candidat à la présidence de la République, c'est pas de faire tant dans les sondages, c'est de réunir la signature de 500 élus locaux. C'est une règle qui est constitutionnelle. Donc, une fois qu'on sait c'est ça. Moi, c'est la règle pour être candidat. Mais c'est pas de faire 15%.
Mais on a quand même, on a quand même beaucoup changé.
Ça fait quand même. Ça serait quelqu'un qui est sur les thématiques de la loi et l'ordre. S'il commence déjà à décrier les propres
règles, c'est la technique contre la démocratie. C'est le peuple qui doit voter. Là, on est sur quelque chose de technique. C'est pas possible de ne pas donner au peuple la possibilité de voter.
Aujourd'hui, il y a une règle qui existe. C'est la réunion de 500 parrainages. Si M. Zemmour était peut-être moins outrancier, s'il avait peut-être plus d'idées sur l'écologie et l'économie, il réussirait peut-être à réunir ces 500. S'il avait une idée de la décentralisation et qu'il aille parler avec les, avec les maires, avec les conseillers départementaux,
c'est votre avis.
Quand vous jouez à Monopoly, vous vous étonnez pas au moment de vous retrouver dans la casse-prison si vous avez fait un double 6.
En l'occurrence, il n'y a pas la casse-prison.
Il y a des règles. Je vous donne une règle du jeu auquel vous jouez et que vous refusez les règles.
La démocratie, c'est quelque chose de simple. Le pouvoir au peuple. Chaque citoyen français doit pouvoir voter pour un candidat ou le candidat qui représente ses idées. Vous pouvez juger que Éric Zemmour est outrancier. C'est votre avis. En l'occurrence, il doit pouvoir se présenter.
Dans un état de droit, il y a la loi. Donc, si Éric Zemmour, encore une fois, avait peut-être une pensée sur la décentralisation pour augmenter, baisser les dotations globales de fonctionnement pour les élus locaux ou pour réviser le système de subvention, peut-être que ça parlerait à des élus locaux qui diraient Mais oui, il a raison.
Mais parlez bien dans le micro.
Mais moi, je suis là pour défendre
Éric Zemmour dans son programme, d'ailleurs, qu'il n'a pas présenté. On est là pour parler. Donc moi je suis très attachée à l'état de droit puisqu'en plus je suis avocate et puis je suis très attachée à cela même en tant que démocrate. Mais vous avez l'état de droit au niveau juridique. Alors, mais vous avez aussi la philosophie de tout cela.
On va marquer une pause et on va continuer. On va continuer ce débat tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Allez, on est emporté par ce débat à propos que Pierre, notre auditeur, a lancé à propos des signatures. Vous vouliez réagir pouvoir se présenter à la présidence de la République.
Ouais, la question était de savoir si quelqu'un qui pourrait réunir sur son nom plus de 10%, comme Éric Zemmour, pouvait ne pas être sélectionné par le biais des 500 parrainages. Moi, j'ai envie de dire deux choses. Pragmatiquement, jusqu'à présent, donc depuis la première élection au suffrage universel du président de la République et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu deux candidats importants qui aient été écartés de la présidentielle pour ça. Il y a eu à un moment, une présidentielle, il y a eu Jean-Marie Le Pen, premièrement. Deuxièmement, si ça devait arriver... Je ne suis pas, Rudolf, dans le sens où la Constitution existe, la règle a plus de 50 ans, et s'il fallait l'adapter parce qu'elle est inadaptée, il faudrait la changer.
Ça serait quand même un paradoxe
d'avoir un candidat fort sympathique, qu'on aime beaucoup, comme Jean Lassalle, qui réunirait 2% des suffrages, enfin, ou 1% des suffrages, et qui réunirait 500 parrainages, alors que quelqu'un qui pourrait théoriquement représenter 10% des Français ne les ait pas. Donc il y a quand même
le vrai drame pour moi, il serait qu'Anne Hidalgo les ait alors qu'elle pèse 4%.
Et là, on sait qu'elle les aura.
Vous voyez la limite de l'exercice à partir comme
c'est ça.
C'est peut-être que la règle du général de Gaulle était inadaptée.
De partir comme ça et de terminer en torche, c'est-à-dire.
Vous êtes d'accord avec nous.
C'est-à-dire que la limite de l'exercice populiste, elle existe immédiatement. Et de partir comme ça, sans avoir de parti politique, sans avoir de structure, sans avoir d'équipe, sans avoir d'entourage, sans avoir de programme, sans avoir.
Sauf que certains peuvent vous dire oui, mais Emmanuel Macron, il a fait quoi, le président ?
Mais il a eu ses 500 signatures.
Non, mais il n'avait pas de parti.
Emmanuel Macron, il fait des dégâts à la démocratie française en laissant penser que le premier qui sortait du chapeau comme ça puisse être élu président de la République.
Ça inspire un certain nombre de personnes.
Montre bien que Emmanuel Macron ne venait pas non plus de nulle part.
Est-ce qu'il avait un parti?
Il n'avait pas de parti, mais il a peut-être été moins outrancier que Éric Zemmour ne l'est aujourd'hui et que des élus locaux se sont dit.
C'est votre point de vue, ça ne doit pas définir le fait qu'il puisse ou non se présenter, sachant par ailleurs le poids électoral qui est
plutôt simple. Ce sont nos 36 000 maires qui, eux, apparemment, sont plutôt en responsabilité sur cette régulation de l'outrance.
Oui, mais vous voyez bien que ce n'est pas aussi simple que ça quand on vous écoute. explique, et je crois que Jérôme Ripoul connaît bien la question, que des collectivités vont sanctionner les maires qui ont donné leur voix à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour, c'est pas normal. Oui, c'est-à-dire qu'ils auraient envie de le faire.
C'est des choses qui peuvent se dénoncer sur la place publique.
Ah bah, moi, j'ai
je ne suis pas naïf.
On n'arrête pas les Dalton et...
Je ne fais pas naïf.
Mais qu'est-ce que vous voulez dénoncer ? Comment vous allez prouver qu'une subvention vous a pas été attribuée parce que vous avez voté, vous avez soutenu Éric Zemmour ?
Quand vous construisez un gymnase ou vous refaites un lycée dans votre commune, la région participe, le département participe.
Il y a eu des pressions, c'est
lamentable. Je pense que...
Il y a eu des subventions qui n'ont pas été attribuées.
Il faut le dénoncer. Parce qu'en fait, on est en train de donner une prime au non-courage politique et je trouve ça lamentable.
Et moi, je vais rebondir là-dessus. C'est-à-dire que vous dites, oui, mais c'est la démocratie. Sauf que si Marine Le Pen et Éric Zemmour n'ont pas leur signature pour pouvoir être candidats, autant vous dire que ça va fragiliser la démocratie. Oui. Pourquoi ?
Parce que je vais vous dire.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils se présentent comme anti-système.
Je suis d'accord. On les voit.
Donc ils vont à fond se victimiser. Et vous croyez pas qu'ils vont être aussi soutenus aussi dans leur démarche ?
Et autant vous dire qu'il sera difficile dans ce cas-là que le président ou la présidente qui sera élue ait la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que là, il y aura un retour de bâton démocratique et populiste qui sera, à mon avis, redoutable. Je crois qu'il faut quand même se poser la question.
Un petit mot sur un sondage, juste parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, qui à propos d'Anne Hidalgo. Sondage tout à fait étonnant quand même. Les sondés se montrent très sévères avec Anne Hidalgo. 74% la jugent mauvaise candidate, 69% estiment qu'elle n'est pas une femme d'État, et chose rare, sur une personnalité politique, les sondés ne lui prêtent majoritairement que des défauts et aucune qualité. Elle est estimée dans le sondage que nous évoquions entre 4,5 et 5% des voix.
C'est la défaite une fois de plus. Enfin, c'est l'héroïne du Parti Socialiste. Olivier Faure a voulu sauver sa place au Parti Socialiste de secrétaire et a voulu désigner Anne Hidalgo, alors que c'est la plus mauvaise candidate.
Et encore, je vais vous dire...
Montebourg serait meilleur.
Olivier Faure, à mon avis, il attend le bon moment, excusez-moi, pour débrancher sa candidature.
Et qu'elle se mette derrière
Yannick Jadot.
On découvre le vrai visage d'Anne Hidalgo.
Soi-disant, elle est à 4,5% dans les sondages. Ce ne sont que des sondages. Il y a toujours d'ailleurs 2 points d'écart. Mais en termes de remboursement des frais de campagne, vous imaginez aussi pour un parti déjà qui est très...
Je connais les montants exacts. L'écart entre plus 5% et le remboursement à moins 5% est énorme. Moins 5%, on est remboursé à hauteur de 600 000 euros à peu près. Au-dessus de 5%, on est remboursé, je crois, à hauteur de 12 millions d'euros. Exactement. Donc, évidemment, ça interroge. Et pour aller voir les banques, c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous parlez de manœuvres socialistes, d'apparatchik, de politique politique. Non, moi, je parle simplement de la gestion d'Anne Hidalgo à Paris, qui est là.
C'est son image,
c'est sa politique. Mais c'est une femme qui s'est toujours montrée très autoritaire. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout simplement... Là, on a juste l'effet boomerang, finalement, de ce qu'elle a toujours fait.
Et c'est quand même bien que ça lui revienne.
Je pense qu'on n'a pas ménagé notre peine au Conseil de Paris avec Rachida Dati, avec tous mes collègues, pour dénoncer de façon permanente l'amateurisme dans la gestion, les combines politiques.
Mais l'autoritarisme, il y a quelque chose de dur chez cette femme.
Nous, on le connaît,
elle
ça rejaillit au grand jour.
Elle n'écoute jamais l'opposition. Comment on peut avoir de l'affection ou en tout cas avoir envie de voter pour quelqu'un
qui se montre aussi dur.
Je reboucle avec le hold-up du début. Pour moi, l'élection d'Anne Hidalgo aux dernières municipales, ça a été un hold-up.
Totalement.
Parce qu'il n'y a pas eu
Elle a mis les finances de Paris à sac. Elle a complètement saccagé la ville. Aujourd'hui, elle se propose de faire la même chose avec le Parti Socialiste. Autant vous dire que que ses petits camarades sont plutôt flippés.
Mais il y a de quoi. Hein.
Je cherchais une information que j'ai vue passer, Najwa, qui concernait votre coup de gueule. Je crois que le maire de Bagnolet a refusé de répondre aux journalistes.
Bah, bien sûr.
Il refuse de s'expliquer. Allez voir cette affaire, cette tribune de Marianne que vous pourrez lire. C'est important. Mmh, c'est important de dire là aussi ce qui se passe. Merci à tous les quatre.
Merci dans un instant,
c'est Arthur Laborde qui sera avec vous et qui reçoit le professeur Emmanuel Hirsch pour son livre Une démocratie endeuillée. Passionnant, Emmanuel Hirsch, à chaque fois. Merci à vous. Très bon week-end.